Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'émission. Par les temps qui courent, écoute pendant une heure les artistes tous les soirs. Quelle joie. Et on est ravis de recevoir ce soir Serge Tessoguet.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux.
Par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas te.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Il était et il n'était pas. Ainsi commencent certains contes orientaux si on traduit, et cela laisse une sacrée marge de liberté pour l'imagination, l'installation d'un monde, une rencontre par exemple, ou une note. Cette marge entre ce qui est existant et ce qui n'est pas là, ou pas encore, ou ce qui pourrait être, est une sorte de fil d'Ariane dans votre création ces dernières années, Serge Tessoguet, à commencer par le nom de votre label, Intervalle Triton, cet écart musical d'une demi-octave jugé dangereux au Moyen-Âge et dont la tension fait toute la beauté jusqu'à ce territoire de musique et d'amitié créé avec le musicien syrien Khaled Al-Jaramani, nommé Interzone, et qui donne naissance à un nouvel opus sorti ces jours-ci, Cannes Yamakan, et qui donne lieu aussi à des nouveaux concerts. La sonorité sur ce disque de votre guitare va de la distorsion la plus rêche à des notes presque soufflées, et celle de son oud flirtant parfois avec le percussif et la voix rauque. Bonsoir à vous, Serge Tessoguet. Bienvenue. Alors, puisque j'ai dit que ça donnait lieu à des concerts, je vais donner quelques dates. Le 31 janvier, vous serez à Strasbourg. Le 1er février, à Rieux-le-Pape. Le 7 février, à Bruxelles. Le 2 février, à Pont-du-Château. Le 8 février, à Mordel. Le 19 février, à Ivry-sur-Seine, dans le cadre des festivals Sons d'hiver. Le 23 mars, à Chamonix. Le 24 mars, Chalon-sur-Saône, etc. jusqu'en juin. Vous serez toujours sur les routes.
C'est ça. Ouais.
Vous êtes beaucoup sur les routes?
Je passe ma vie sur les routes, finalement. Comme je fais beaucoup de projets en parallèle, ils sont tous en parallèle les uns les autres. Et ça fait presque 20 ans que j'ai commencé une sorte de tournée sans fin.
Et c'est un endroit agréable, la route?
Oui, le train surtout. Enfin, je voyage en train. Je m'évite des temps de transport très longs en voiture ou en camion qui ne me permettraient pas de jouer, par exemple, le lundi à Brest et le mardi à Grenoble, par exemple. Et donc j'organise mon travail comme ça, en voyageant en train, comme ça je suis très souple, et en même temps j'ai arrêté aussi de répéter en groupe, donc j'ai plus de locaux de répétition, donc c'est juste un travail qui est de préparation personnelle. Et tous les musiciens avec qui je travaille, on travaille tous de la même façon. Donc on se retrouve le moment du concert pour l'après-midi, pour les réglages avant le concert du soir. Et ce qui permet de pouvoir, d'un jour à l'autre, changer complètement de programme ou d'improvisation. Ben, je fais aussi beaucoup de concerts improvisés. Avec un peintre, par exemple Paul Bloas. Le lendemain avec Joël Léandre en improvisation, guitare contrebasse. Et pourquoi pas après avec Interzone le mercredi. Et finalement, toutes mes semaines se succèdent comme ça, avec 2-3 concerts par semaine en moyenne, mais ce qui fait beaucoup d'activités hors chez moi, dans tous les cas.
On reparlera de cette préparation personnelle qui vient remplacer la répétition, parce que c'est évidemment un état face à la musique qui est extrêmement différent et qui doit certainement avoir un impact sur la musique que vous faites aujourd'hui. Mais on va écouter William Burroughs pour commencer.
Dr. Finger Schaefer, the lobotomy kid, rises and turns on the conference the cold blue blast of his gaze. The trap hasn't been aired since the exterminator fumigated for coke bugs, said the sailor apologetically. Every nuance of his latest assault on logic and the human image.
William Burroughs et des petits bouts du festin nu. Il lit comme ça des fragments, ouais, de ce texte qui, au tout départ, quand il n'était que page à peine reliée, s'appelait Interzone. Parce que j'aimerais qu'on s'attarde avec vous, Serge Tessoguet, sur le choix de ce mot-là pour qualifier le travail que vous faites avec Khaled Al-Jaramani, mais aussi de cette idée de la marge, de l'interzone que j'essayais déjà de développer en introduction. Alors, pourquoi le festin nu? Pourquoi l'interzone de William Burroughs?
Bah c'est effectivement c'est la référence à Burroughs, le nom du duo, c'est sûr. Ça nous paraissait une... Je suis d'évidence qu'on prenne, on s'est dit tiens, c'est ça, c'est notre nom, ça sera notre nom. Et on créera notre propre interzone, qui est une zone où on va inventer notre propre langage entre Khaled Al-Jaramani, qui vient vraiment de la musique classique arabe, qui avait jamais écouté de guitare électrique, et moi, à l'inverse, qui vient de la culture rock, pop, européenne, anglo-saxonne, et qui n'avait jamais écouté réellement la musique classique arabe. Et donc qu'est-ce qu'on va faire ensemble dans l'idée que on ne parle pas du tout la même langue et donc on ne pense pas pareil. Il y a eu plein de questions qui ont été posées par notre rencontre, et donc créons une interzone et qui sera notre carte imaginaire dans laquelle on va pouvoir évoluer.
Dans le texte de Burroughs, c'est un pays imaginaire, en effet, à l'intérieur de son texte, le festin nu. Mmh. Mais l'évidence de se retrouver sur Burroughs, c'est parce que vous en aviez parlé l'un et l'autre, ou c'est un hasard?
Non, c'est pas un hasard, c'est parce que Burroughs, c'est un auteur que je lisais, voilà, qui était important pour moi, et on en a parlé ensemble, et disons que intuitivement, on est allé vers ce choix de titre, et, à vrai dire, tous les titres qu'on choisit de nos morceaux sont faits de façon intuitive, parce que c'est toujours la musique qui est aux avant-postes. La voix vient nourrir la musique.
Quand il y en a, il n'y en a pas
sur tous les morceaux. Khaled se pose pas non plus comme un chanteur avant d'être un oudiste. C'est avant tout un oudiste et un musicien de musique instrumentale, on va dire, vraiment pas du tout un accompagnateur. Et du coup, les choses arrivent, les mots arrivent après la musique chez nous. Et je peux vous dire que, par exemple, le premier album qui a été composé à Damas en partie, on s'est rencontré avec Khaled, c'était en 2002 et c'était 2003, il me semble. Oui, c'est ça, où on a vraiment commencé à bosser ensemble. Je vous raconte un peu comment ça s'est passé. C'est suite à une invitation de deux auteurs, donc Sylvain Fourcassier, qui était en poste à Damas à l'Institut français Centre culturel de Damas, mais qui est aussi auteur, et Bernard Wallet, qui était le fondateur des éditions Verticales, qui était en visite chez son ami Sylvain Fourcassier à Damas, et qui connaissait tous les deux Khaled Al-Jaramani, qui m'ont dit, écoute Sergio, il faut que t'écoutes ce gars. Donc Sylvain organise un concert privé chez lui, en quelque sorte.
Classe,
et,
sympa.
Oui, vraiment sympa. Et du coup, Khaled vient, joue, et je tombe complètement en admiration devant son jeu. Il aurait pu jouer du pipeau, ou j'en sais rien, je serais tombé en admiration pareil. Là, c'est aussi, ça veut dire que c'est pas forcément l'instrument lui-même qui crée la rencontre. Ça va ailleurs, la force est ailleurs. Mais bon, bref, on se retrouve avec l'idée que je revenais quelques mois plus tard avec l'autrice Lydie Salver pour une lecture d'un de ses textes et dans lequel j'intervenais moi en tant que guitariste. Et du coup, avec Khaled, on s'est dit, voyons-nous à ce moment-là. Et dans le pire des cas, ça sera une super expérience que de jouer ensemble. Et donc le pire des cas est devenu une super expérience qui est maintenant qui dure. Mais donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que on s'est vu 4 soirs d'affilée, et c'était après que Khaled fasse son travail de prof de oud, donc
à Damas.
Et du coup on se voyait le soir de 9h à minuit, et chaque soir on a monté un morceau par soir. Et du coup, on n'avait pas le temps de se parler, on n'avait pas envie spécialement de se parler. On était vraiment pour dialoguer, être là pour dialoguer entre nos deux instruments, voir ce qui pouvait émerger. Et donc, à la fin du 4e soir, on a eu 4 morceaux, et par politesse, j'ai demandé à Khaled, mais qu'est-ce que tu auras envie? Tu m'as invité chez toi, et j'ai envie qu'il y ait un échange qui aille aussi dans mon sens. Et il m'a dit, j'aimerais bien au moins une fois dans ma vie jouer en Europe. Et donc, à ce moment-là, je lui ai dit, OK, je te promets que je me débrouille pour organiser un concert en France et te faire venir. J'y suis arrivé, il est venu 5 jours avant le concert, et on a fait 5 nouveaux morceaux. Donc, on n'a toujours pas eu le temps de se parler. Et tout a été, en fait, une sorte de... Tout s'est accéléré. On a fait ce concert, on s'était toujours pas parlé. Et une maison disque Barclay, chez qui j'étais à l'époque, m'ont proposé de sortir un disque. J'étais assez étonné, mais la proposition était spontanée. Et il y a un tourneur qui nous a proposé aussi, avec qui je bossais, qui m'a proposé, on a envie de faire tourner ton duo et tout avec Khaled. Et donc, sans rien demander, on s'est trouvé très vite à enregistrer notre premier album. Et à ce moment-là, j'ai dit à Khaled, ok, on va l'enregistrer en France, mais viens une semaine avant l'enregistrement, histoire que je connaisse qui tu es. Je connais juste ton nom, et on a fait déjà un album ensemble, et on s'est toujours pas parlé.
Il est venu une semaine avant?
Il est venu une semaine avant, donc, donc voilà, notre amitié musicale s'est étendue, bien sûr, à quelque chose de beaucoup plus large.
Et en réalité, ça supposerait qu'on ne sait pas qui est l'autre quand on a joué tant d'heures avec lui, alors qu'en fait, ce que laisse à croire ce que vous nous racontez, Serge Tessoguet, c'est qu'en fait, on peut très bien savoir un peu qui est quelqu'un quand on joue ou quand on improvise.
Oui.
C'est aussi, à proprement parler, un lieu de rencontre.
Oui. Oui. J'ai eu des expériences similaires comme ça, notamment avec Kakushin Nishihara, qui c'est une chanteuse et joueuse de biwa, qui est un instrument traditionnel japonais dont l'origine de son instrument est le oud. On pourra en parler plus tard si vous voulez, c'est assez intéressant l'histoire du oud à travers le monde. Elle ne parlant pas anglais, moi ne parlant pas japonais, on avait 3 jours de création et après on partait, on avait 8 concerts d'affilée dont le premier concert c'était pour Radio France. On n'avait pas le temps de dialoguer avec des mots en sachant que les Japonais ont du mal à dire oui ou non de façon comme nous, on peut se dire oui ou non. Répondre de façon très tranchée sur une question. Donc j'étais assez embarrassé. Donc juste le dialogue n'a été que musical. Et on sent si quelqu'un est à l'aise. On sent très bien si quelqu'un est confortable avec la musique qu'on propose. Et moi, de mon côté, j'ai une façon de penser la musique avec les gens avec qui je travaille, qui est la suivante, c'est-à-dire que je suis responsable du confort de l'autre.
Le vôtre compris ?
Oui, de fait, mais si...
C'est pas une façon de s'oublier, quoi.
Non, pas du tout. Mais avant tout, je suis responsable du confort de l'autre. Et si l'autre est confortable, il me mettra bien aussi. C'est vraiment l'histoire de l'échange. Si je mets en valeur le oud de Khaled, il mettra en valeur ma guitare. Mais pour ça, il faut qu'on ait établi une relation qui soit de confiance et de confort, pour pouvoir oser des choses qu'on n'oserait pas. Évidemment, si on est inconfortable, on n'ose pas. Et dans les mots et dans la musique, c'est pareil.
Je voulais revenir aussi sur cette création de label Intervalle Triton, parce qu'en fait, à lire tous les projets auxquels vous participez, Serge Tessoguet, ou que vous-même que vous initiez, il y a toujours cette idée-là de la zone libre, de l'intervalle, ce titre d'album qui dit « il était, il n'était pas », comme une espèce de zone interlope comme ça, où les choses, elles sont... Ou même tout à l'heure, vous disiez les trajets de train, je me disais en vous écoutant, mais c'est tellement ça, un trajet de train, c'est une zone entre un point de départ et un point d'arrivée, et puis... Voilà, des choses sont possibles, des rêveries, des rencontres, des lectures, éventuellement même une guitare qui peut sortir dans un trajet de train. Ça veut dire que dans cette forme de marge-là, vous trouvez votre confort, pour reprendre le mot que vous aviez dit à l'instant ?
Non, c'est pas un confort, c'est une zone assez inconfortable. Parce que quand on décide d'être artiste, musicien, indépendant, on est tout de suite directement dans l'inconfort. En fait, c'est comment vivre en marge de la musique marchande, du monde normé, avec sa propre musique, c'est juste le point de départ.
Ça, c'est la question qui a engendré
tout le reste,
le ruissellement des projets.
J'ai commencé à réfléchir assez tôt au fait d'être indépendant, c'est-à-dire j'ai demandé à Universal de me rendre mon contrat à une certaine époque où j'étais en contrat avec eux. Quand j'ai arrêté Noir Désir, c'était mon groupe, un groupe que j'ai créé. Donc, quand j'ai arrêté Noir Désir, j'ai demandé à la maison de disques de me rendre mon contrat parce que j'étais en porte-à-faux avec la politique d'Universal par rapport à la musique, par rapport à la loi Hadopi, la position qu'avait pris Pascal Nègre. J'étais pas du tout pour ça, j'étais pour la licence globale. Il y avait tout un tas d'événements, de choses qui me faisaient penser qu'il faut absolument que je m'en aille parce que j'étouffe là-dedans et quelque part, je ne veux plus servir ce monde-là, ce monde industriel, et il faut que j'invente autre chose. Et aussi, ce monde-là va mourir. Mais j'ai commencé à penser comme ça dans le milieu des années 2000. Et j'étais contre le streaming, je le suis toujours tel qu'il est. En soi, le streaming, c'est juste fantastique. C'est une bibliothèque, une discothèque géniale, gigantesque, où on peut puiser là-dedans. Voilà, plus soif, c'est vraiment fantastique. Mais c'est juste que les artistes ne touchent pas un rond. C'est complètement faux, le fait que... Alors, les gens pensent qu'ils payent voilà, un abonnement 10 balles tous les mois à 10 heures, ou Spotify, je ne sais quoi. Et moyennant quoi, c'est redistribué aux artistes. Mais c'est faux, c'est ridicule. Pour toucher, on va dire, 20 euros, il faut que je vende... Il faut que j'ai plusieurs millions de clics, que 50 millions de clics. Donc, ces questions-là m'ont fait me poser voilà, d'autres questions.
Disons, comment faire ?
Comment faire ? Et comment vivre dans les marges ? En créant ses propres marges.
Et on reviendra sur cette question de marge, parce qu'il y a aussi tout le travail que vous faites de transmission, de rapport à la musique, avec des gens qui sont amateurs ou qui découvrent la musique et qui découvrent dans la musique des possibilités de vivre, justement, en dehors d'un monde normé ou pour réparer certaines choses. On y reviendra tout à l'heure. Mais on va plonger avec vous, si vous le voulez bien, dans ce quatrième opus d'Interzone. Et on va commencer par parler de la poésie de Omar Ibn al-Farid.
Il est vrai que Ibn al-Farid utilise toutes les techniques poétiques. Ceci dit, ce qui est évidemment essentiel dans sa poésie, c'est le souffle mystique qui passe à travers cette poésie. Et sa poésie est une façon d'exprimer son expérience mystique. Le fond même de l'œuvre d'Ibn al-Farid est en effet, c'est profondément et à tout instant le chantre de l'amour divin. Et il est quasiment amoureux de l'amour. Alors, ceci dit, ce chant d'amour continuel qui est celui de sa poésie, en fait, comme c'est un amour mystique, c'est un amour déçu. Et donc, il parle beaucoup plus souvent
de l'absence que de la présence.
Voilà. Néanmoins, il désire la présence à tout instant.
سكرنا بها
سكرنا بها من قبل أن كانت الكرم صفاء ولا ماء وطف ولا هواء ونور ولا نار
Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Serge Tessoguet.
Alors on arrive, Serge Tessoguet, à un moment de virage pour ce morceau-là, et c'est vraiment tout l'intérêt de ce disque, c'est de proposer des morceaux dont le caractère évolue, dont la tension s'installe, se rompt, arrive, repart. Et ici, je me disais tout à l'heure en réécoutant que le moment où votre guitare change, elle est presque une sorte de guitare d'Afrique de l'Ouest qui se transforme complètement des premières notes de guitare avec laquelle vous installez le morceau. C'est un morceau qui s'appelle Ivresse. Et si on entendait juste avant un extrait de l'émission Culture d'Islam en 2002 où il est question de Ibn al-Farid, c'est que le texte est signé de sa plume.
Oui.
Pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher ce poète?
Disons que Khaled al-Jahramani connaît des centaines de poésies par cœur. Et quand on travaille sur un thème musical, des fois je lui demande, des fois non, mais des fois je lui dis j'entends ta voix, ou j'entends, c'est sûr que j'entends ton oud. Et réfléchis à une voix, par exemple, si t'as envie. Et généralement, il se passe pas plus que une minute. Et Khaled se met à chanter. Donc ça veut dire que...
C'est un poème qui s'invite en fait.
C'est ça. Et depuis qu'on travaille ensemble, c'est toujours la même façon de travailler. C'est-à-dire qu'il s'isole jamais pour aller écrire un texte ou faire une recherche de texte parmi des poètes soufis, principalement pas mal de poètes pré-religieux du reste qui parle souvent de la vie, une ode à l'amour, à la vie. Et c'est toujours des textes qui s'invitent. Toujours, toujours, toujours. Et c'est très étonnant parce que...
C'est comme un appel, en fait. C'est la musique dans ce que vous installez.
Il y a un autre morceau qui s'appelle Le Paradis Perdu. Mmh. Paradis Perdu, je crois. Mmh. Ouais, c'est un Paradis Perdu. Et Khaled me dit, tiens, c'est la première fois que je peux enfin chanter ce texte que j'ai envie de chanter depuis tellement longtemps. J'attendais la musique qui puisse permettre au texte.
Et qui est un texte à lui ?
Paradis perdu, non. Au départ, non. C'est un texte qu'il a transformé.
Ouais. Donc vous êtes ensemble, vous êtes en train de travailler, en tout cas de jouer ensemble. Mmh. Et puis quelque chose s'installe. En tout cas, principalement, je trouve, sur ce morceau-là, on sent que... Il y a une première économie de notes pour vous, un oud plus bavard dans le début du morceau. Et c'est comme si les choses, elles se... Pas construisaient parce que ce serait trop concret ou solide, mais ça s'installe, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est ce geste-là.
C'est assez fragile, notre monde est assez fragile, finalement. Et il est bien comme ça. Il a son équilibre comme ça. Donc, on va de paysage en paysage, on va dire. Et depuis 6 ans qu'on s'est pas vu, au moment où on commence à composer ce 4e album, ça fait 6 ans pas qu'on s'est pas vu, mais qu'on n'a pas composé ensemble. Mmh. Parce que Khaled est arrivé en France au début de la guerre, et il a fui la Syrie pour s'installer à Paris un temps, à la Cité des Arts. Et puis, à ce moment-là, on a composé le 3e album. Et aussi bien le premier album que le deuxième étaient composés comme ça par succession de thèmes qu'on amenait chacun à notre tour par politesse. Donc maintenant t'as amené ton thème, donc j'amène le mien et on définit juste ensemble comment on le structure, on va dire. Le deuxième album était composé entièrement en Syrie pour avoir, on essayait d'avoir un équilibre entre les temps passés en Europe et les temps passés en Syrie.
Pour votre mode de faire ou pour aussi pour que ça se sente dans la musique.
C'est un ensemble, c'est assez informel finalement. On cherche une sorte d'équilibre parce que c'est chez lui là-bas. Et donc j'ai besoin d'être chez lui pour ressentir certaines choses que je peux pas ressentir tant que j'y serais pas allé. Et à cette époque-là, au deuxième album, j'avais envie d'habiter là-bas. Mmh. Je ressentais tellement une chaleur humaine de la part des Syriens qui étaient super accueillants. Je me sentais vraiment bien, comme si j'étais chez moi. Donc ça m'a donc j'ai séjourné là-bas et du coup le deuxième album s'est fait très vite. C'est pareil, on prenait une journée et on faisait un morceau. Je suis resté un peu plus longtemps. On a tourné un peu là-bas et quand Raled est venu définitivement s'installer en France, donc on a changé notre méthode de travail. Là, la méthode de travail est devenue comme pour cet album-là. Le troisième et le quatrième sont assez similaires dans la méthode, c'est-à-dire que on pense l'un à l'autre depuis quelques années, parce que entre le deuxième et le troisième album, il se passe 4 ans. Donc, on accumule des idées, et comme Raled, il est comme moi, on travaille avec beaucoup de gens séparément, en dehors du duo. Donc, on sait quand on compose quelque chose, on est tout le temps en train de composer. Donc, on sait quand on compose quelque chose, cette idée, elle va être bien pour telle personne. On le sait. Ça, on le sait dans la seconde où on l'a fait.
Ça veut dire, juste petite parenthèse, pour parler du reste de votre travail, Serge Tessoguet, que vous composez dans l'absolu, et au moment où vous composez, vous vous dites « Ah, ça pour un projet avec Mike Ladd, ah, ça pour un truc pour accompagner Lydie Salvert. » C'est pas « J'ai un spectacle ou j'ai cette chose à faire et je vais composer pour. »
Non, pas du tout.
Vous avez votre composition intime, personnelle, votre monde, et ensuite ça va comme une correspondance en direction des gens qui sont vos rencontres depuis des années.
C'est-à-dire que c'est les gens avec qui je vais travailler, que la plupart du temps j'admire leur travail. Bon, voilà, c'est eux qui me guident quelque part. Je sais que dans le futur, je vais bosser avec eux, je les embarque sur un projet où je vais tout monter. Le fait que le projet puisse exister et tourner, et sortir un album, enfin, faire de la production et tout ça. Donc je m'occupe de ce travail-là, mettre les mains dans le cambouis, etc. J'aime bien faire ça aussi. C'est aussi quelque chose ça fait partie de cette position d'être indépendant.
Ouais.
C'est important, c'est vraiment important, et c'est beaucoup de boulot, mais c'est comme ça qu'on gagne en indépendance, en liberté, en nouvelles idées aussi. Donc du coup c'est les personnes même qui me donnent qui me donnent du grain à moudre et qui me donnent les voies, qui m'indiquent les voies où aller. Et donc là, je pense, avec Raled, donc je pense que tous les musiciens bossent comme ça. Hein. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais on n'en parle pas forcément. Mais donc, quelques années plus tard, on se retrouve, et quand on se retrouve, on a un certain nombre d'idées, et même si on va se remettre à bosser extrêmement vite, le quatrième album, par exemple, on a bossé 18 jours étalés sur 6 mois, entre le début où on compose ensemble et la fin de l'enregistrement, ce qui est super rapide. Mais ça veut dire que...
Mais en fait, c'est des années.
C'est des années, donc c'est tout ce travail informel qui est présenté. Ah tiens, j'ai eu une idée, on ne sait plus, il y a 2 ans. Ah tiens, regarde, j'ai eu une idée, qu'est-ce que t'en penses? Et là, si Raled réagit de façon positive, tout de suite, on garde. Si c'est pas le cas, on jette. On s'en fout, on n'est pas du tout... La musique, elle est malléable, enfin les idées sont malléables, et puis surtout, faut qu'on soit confort tous les deux, quoi.
Et alors, ça veut dire que concrètement, vous avez quoi? Vous avez un je trouve pas mes mots, mais comment on appelle ça, un dictaphone?
J'ai mon téléphone. J'enregistre toujours, je joue à vide, je suis non branché. Je suis guitariste électrique, mais comme je joue tout le temps, je suis dans ma piole d'hôtel ou sur un canapé, j'en sais rien, chez moi. Et j'ai toujours mon téléphone avec moi, enfin, comme tout le monde, voilà. Et quand j'ai une idée, je l'enregistre. J'ai un dictaphone.
3 ans, 4 ans plus tard, vous la reprenez.
Ouais, voilà. Donc j'ai des
stocks. Vous la jouez à Raled El Jaramani.
Oui, ouais. Et puis tout de suite, on décide qu'est-ce qu'on en fait. Donc, au bout du compte, sur le troisième et le quatrième album, on ne sait plus qui a amené quoi. Donc là, ça va assez loin quand même, parce que l'interpénétration des deux personnes
sur la zone, elle est parfaite. Là.
Ouais, ouais, ça va assez loin parce que on sait plus. On dit, on sait tel thème. Oui, s'il y a un thème, évidemment, on sait qui l'a amené. Mais souvent,
un thème mélodique, vous voulez dire.
Ouais, c'est ça, une suite de notes mélodiques, un rythme. Après, la façon dont on le structure, dont on structure le morceau, c'est l'un et l'autre, et on sait plus qui a eu l'idée.
J'en suis à un stade où on me demande de former ou d'encourager ou d'induire. Je prétends seulement induire, susciter l'envie de faire de la musique, de la bonne musique, etc. Je regarde vers les autres. Comment ont-ils été quelque chose? C'est en faisant, mais avant tout, en étant quelque chose. Ils ne se sont pas contrôlés. Hein? Mais aujourd'hui, par exemple, je peux contrôler. Le devenir, on présente un enfant ou un candidat, même un adulte, un petit amateur. Ben, je vois ce qu'il devrait, comment il devrait, l'hygiène de vie, etc. Donc bref, c'est l'exigence. Bon, on regarde des modèles, on veut être comme ces modèles, mais je pense qu'on peut être, tout simplement. En ce qui me concerne, j'ai jamais eu la problématique de l'inféodation, étant donné l'attitude, ce n'est pas depuis l'enfance ou la prime adolescence, c'est à la maturité quand même. C'est quand on devient quasi adulte, on s'interroge, etc. Je pense qu'on glisse vers l'éthique, la notion d'éthique là. Oui, c'est la notion d'éthique. C'est primordial. Vous voulez faire de la musique, vous devez entrer en musique, comme en religion. Vous voulez arriver, oulala, on n'arrivera jamais, mais on parviendra à beaucoup de satisfactions au pluriel, et qui ne seront que des étapes vers une perfection qu'on n'atteindra jamais. Voilà à peu près un chemin que l'on peut tracer. Et moyennant quoi, un comportement éthique, hein, et viser l'esthétique aussi, évidemment, hein. C'est un art d'esthète, la musique. Moi, je la pratique en esthète. Bon, j'ai commencé dilettante, maintenant c'est l'exigence quasi pédagogique, à conseiller, à encourager, à freiner, à accélérer les ambitions. Mais enfin, il y a beaucoup de travail, donc il faut un cheminement. Il y a éthique et cheminement, donc c'est initiatique. Je ne me suis pas initié, mais je me laisse aller, et franchement, et de plus en plus, je vois ce qu'il faut. Donc on peut en faire précepte. Mais je ne me suis pas imposé des préceptes à l'enfance ni à l'adolescence. Mais une ligne de conduite, effacement devant le tapage, devant le... etc.
J'adore cet archive parce que c'est comme une sorte de grande impro. On est en 1988, c'est le oudiste Fawzi Saïeb qui s'exprime sur France Culture dans une émission qui s'appelait à l'époque Le Concert de France Culture, présenté par Alain Weber. Une grande impro où il est dit plein de choses. Est-ce que vous voulez tirer un fil en premier, Serge Tessoguet?
Allez-y.
Alors c'est moi qui commence. Ce qui m'intéresse dans ce qu'il dit, c'est le mélange entre éthique et esthétique. Peut-être qui nous rappelle ce que vous disiez tout à l'heure, c'est « je ne répète plus ». Mais je suis dans un état d'être, je suis dans un travail personnel. Est-ce que c'est quelque chose qui a bougé avec le temps, depuis maintenant quand même ces quelques années où vous faites de la musique, Serge Tessoguet?
Oui, ça a bougé parce que ce qui m'a aidé, c'est d'avoir un langage musical qui s'est enrichi. Et j'ai plus de lettres à mon vocabulaire qu'il y a 20 ans. Donc il y a 20 ans, j'avais encore besoin d'avoir l'appui de mes camarades et de se tenir chaud et de répéter ensemble, de structurer vraiment ensemble.
Qu'un appui technique? Non, qu'un appui de certitude de savoir qui va faire quoi.
Oui, c'est ça. Exactement, pas technique, parce que j'ai grandi sans technique véritable, et elle s'est développée au fur et à mesure de mon travail. Et ça, c'est des choix, c'est vraiment des choix d'être autodidacte, parce que je trouve ça intéressant et que je ne serais pas enfermé. Je m'étais dit ça, mais pourquoi pas? C'est pas forcément une bonne règle, on s'en fout, mais dans tous les cas, c'est ce chemin que j'avais choisi. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai envie d'avoir assez d'autonomie pour pouvoir rencontrer plus de personnes, pour pouvoir faire évoluer encore plus ma musique. Donc ça suppose d'être une rigueur au quotidien assez phénoménale.
Concrètement, ça veut dire quoi, une rigueur quotidienne?
Vu que je joue tout le temps, et que j'ai des concerts toutes les semaines. Je me suis aperçu, par exemple, l'an dernier, je me suis arrêté 3 jours, week-end compris. Donc, ça veut dire que je travaille tout le temps sur les routes, ou si je suis chez moi, comme je suis seul à m'occuper de mon label, à structurer les enregistrements, tout ça, je fais un album par an, des fois deux. Bon, ça dépend. Je calcule pas ça, juste je fais. Donc, je m'aperçois au fil des années qui passent que j'ai fait certaines choses. Et du coup, ça veut dire que je dois m'organiser, et surtout quand je m'arrête, quand j'ai pas de concert pendant 10 jours, c'est là où je m'aperçois qu'il y a une tension interne qui n'est plus là, qui disparaît.
Ah ouais.
Donc, mais c'est quelque chose que je découvre quand je m'arrête 10 jours, mais comme je m'arrête tellement rarement, pour moi, ça fait partie intégrante de mon fonctionnement.
Mais alors, pour bien comprendre, c'est une tension qui, quand elle n'est plus là, vous manque, ou c'est bien qu'elle s'en aille?
Non, c'est bien, c'est cool. Je suis
c'est
assez
bien
content.
Qu'elle s'en aille.
Je suis assez content. Mais c'est une tension qui est liée au concert, parce que jouer nécessite une vraie tension interne. Être préparé à un concert seul nécessite une bonne connaissance de ce qu'on va faire, ou si c'est en improvisation, c'est quand même 80% de mon boulot est totalement improvisé. Donc ça veut dire que je dois être extrêmement rapide dans ma capacité à répondre à une information musicale qu'on m'envoie. Donc c'est de l'ordre même de la microseconde, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide qu'une réflexion pensée. Donc c'est de la musique, c'est fonctionne comme ça. Donc
mais alors ça passe par quoi? Comment on est prêt à être prêt?
Il faut garder son énergie pour le moment du concert. Ça demande à être concentré, être centré le plus possible. Et évidemment s'oublier totalement. Donc une des règles en tous les cas quand on est dans la musique improvisée, c'est de jamais répéter ce qu'on a fait la veille. Tiens, parce que l'improvisation de la veille était géniale et qu'on a trouvé des choses nouvelles, on essaye de les refaire et alors là on se plante à chaque fois. C'est toujours raté, mais vraiment raté. Et donc c'est un processus qui est super long parce que on est tout le temps aux aguets de tiens, il y a quelque chose de nouveau qui est sorti. Donc c'est quoi? Et pour se rappeler cette chose nouvelle, on est obligé de se retrouver dans la même situation, donc de rejouer assez vite en concert pour faire ressurgir cette chose-là, parce que si on est seul dans son salon ou dans son local de répète, ça ne viendra pas parce qu'on n'est pas dans un état émotionnel qui est particulier, donc celui du concert. Et au bout d'un certain nombre de fois où ça revient, on s'aperçoit qu'on peut noter cette idée qui est nouvelle.
Parce ça devient de la composition.
Ça devient de la composition. Et c'est des nouvelles idées qui apparaissent. Et on s'aperçoit que ça devient, ok, une nouvelle lettre à l'alphabet qu'on reconnaît comme étant une nouvelle lettre. Donc c'est un travail qui est super long et assez laborieux, mais ça fait partie du boulot, quoi.
C'est ça, mais c'est aussi un travail qui fait votre vie.
Oui. Oui, complètement. Ça structure ma vie. Ouais.
Dans ce que disait aussi Fawzi Saïeb, il y avait l'idée qu'il était dans un processus de transmission et que ce processus consistait à proposer aux personnes d'être ce qu'elles sont, d'être en accord avec ce qu'elles sont. Et Serge Tessauguet, c'est quelque chose que vous faites vous aussi, de transmettre, alors pas forcément votre musique, mais ce que peut faire la musique à la vie, dans quel cadre par exemple?
Il y a un exemple qui me vient, par exemple, c'est un projet que j'avais monté qui s'appelle Kit de survie. La musique était composée à deux, c'était un duo, Cyril Bibo à la batterie, moi à la guitare. Et c'était une musique qui était en référence aux endroits où on vit, des endroits urbains, en fait. Moi, j'habite en banlieue parisienne, donc, et j'aime cet endroit. J'aime l'énergie de la ville qui s'arrête jamais, qui se renouvelle tout le temps, qui bouge tout le temps, les paysages urbains changent en permanence. J'aime ça, j'aime voir les gens qui viennent du monde entier et qui se croisent, qui se rencontrent ou pas, peu importe, mais qui vont dans cette, ça crée une énergie. Ça crée une énergie, ça crée des potentiels, ça crée des idées, ça donne des idées musicales, évidemment. Et donc j'ai mis ça, on a vraiment mis ça en musique avec Cyril Bibo, qui est un batteur, qui est aussi vraiment compositeur. Donc bref, c'est le travail du duo, je parle d'autre chose directement parce que c'est important, en fait, le travail du duo, parce que on se dit pas la même chose à deux qu'à trois ou à quatre, ou encore moins si c'est une fête de famille où il y a une énergie géniale, mais probablement on s'est rien dit.
Et vous, vous préférez ce duo-là? Vous préférez ce lieu-là pour votre musique?
Ouais, j'affectionne. Mais je ne mets pas en opposition, parce que ce serait une erreur. Parce que les musiques de groupe, vraiment à plusieurs, sont super intéressantes et créent des choses très nouvelles. Interzone, sur chacun de nos albums, c'est devenu des Interzone Extended, avec souvent Kevin Chemirani en percussion, il y avait Médéric Collignon au bugle, Carole Robinson, clarinette basse. On a invité Marc Namour à la voix, dire de la poésie, ses propres poésies et des poésies d'auteurs arabes. Ça, c'était pour le dernier album. L'album d'avant, il y avait encore d'autres intervenants, des amis à Khaled, Noma Mouran, qui est chanteuse d'opéra, qui est en France maintenant. Il y avait Tari Akbari, qui est un chanteur perse. Enfin, voilà, c'est devenu des, on aime ça. Moi, j'aime, si vous voulez, créer en duo. Parce qu'on a une qualité émotionnelle qui est vraiment très particulière, due au fait qu'on est deux, et vous allez comprendre le truc. Ça marche pour la musique, mais ça marche pour la parole. Vous êtes dans un café où vous allez visiter quelqu'un, un ami chez lui, vous discutez de quelque chose, et si une tierce personne arrive, le mode de la discussion peut changer, peut évoluer.
Mais je vous renvoie la balle, vous êtes rentré dans ce studio en disant « Ah, mais on n'est que tous les deux ». J'ai dit, bah ouais, c'est le principe.
Ouais, 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 tout à fait. Soirs. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une rapidité aussi d'échange qui est, dans tous les cas, pour la musique. Bon, pour la chorale, tout le monde comprend ça, ça marche, on connaît tout ça. Et pour la musique, c'est pareil. Du coup, ça veut dire qu'il y a une rapidité d'échange qui est énorme. Et si l'autre s'arrête de parler musicalement, la discussion est close. Donc, ça veut dire
ouverte,
oui, on prend la parole totalement après chacun. Mais bon, bref. Voilà pour mon amour des duos.
Cette archive, on l'a aussi choisie parce que Fawzi Saïeb est un oudiste et que tout à l'heure, vous avez dit « Ah, peut-être ce serait intéressant qu'on reparle de l'histoire de cet instrument » parce qu'évidemment, on entend qu'au bout du quatrième disque, il y a aussi des choses qui se disent presque au-delà de Serge Tessoguet et Khaled Al-Jarami, qui se disent de la guitare et du oud en tant que tel, presque 5. C'est comme des disques qui nous racontent aussi la manière dont ces instruments-là se rencontrent. Alors, qu'est-ce qui vous touche dans le oud, Serge Tessoguet?
D'abord, c'est l'interprète. Donc, au départ, c'est Khaled Al-Jarami qui m'a permis de rencontrer, de découvrir d'autres oudistes, évidemment. Après, l'histoire de l'instrument est géniale, en fait. Les premières traces de oud, c'est sur les bacs des rois d'il y a 4000 ans en Mésopotamie, donc où on peut deviner que c'était un oud. Donc ça, c'est les premières traces, le oud actuel à 2000 ans à peu près, et il est parti en Europe voyager. Il a donné naissance à toute une série de luthes et probablement la guitare classique. Donc l'accordage entre le oud et la guitare classique, dans la guitare électrique c'est pareil, c'est à peu près la même chose. Un oudiste peut jouer du violon directement, par exemple. Les accordages sont très proches. C'est le grand-père de la guitare, dans tous les cas, ça c'est sûr. Et je parlais de Kakushin Nishihara en début d'émission, cette chanteuse et joueuse de biwa, donc qui a un instrument traditionnel japonais. Quand on a travaillé ensemble, je lui ai parlé d'Interzone, je lui ai fait écouter et elle est tombée complètement en admiration devant le oud. Et j'ai vu son instrument et il est très très proche du oud parce que c'est la même chose que la guitare. Son instrument d'origine, c'est elle qui m'a dit, c'est le oud. Il a traversé l'Orient, la Chine, il s'est transformé au fil des siècles, il est arrivé au Japon et c'est devenu le biwa, instrument traditionnel. Mais l'instrument d'origine, c'est le oud.
Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre quand parfois, dans vos morceaux, dans les morceaux d'Interzone, on entend des choses que nous, on connaît ou qu'on croit reconnaître de quelques notes, assemblages de notes, de plein d'autres musiques? C'est vos propres voyages, vos propres sensibilités, ou presque ce qui est contenu dans le bois de vos instruments et leurs histoires et leurs voyages à eux?
Oh, c'est joli. Je pense pour Khaled, je dirais c'est vraiment contenu dans l'instrument, mais ça serait mentir, parce que c'est quelqu'un qui bosse avec plein de gens aussi et comme moi c'est le résultat de nos expériences. C'est-à-dire quand on travaille, on compose un album, on le joue après en concert et on se retrouve quelques années plus tard pour composer à nouveau, il s'est passé 6 ans. Donc ça veut dire qu'on a parcouru des paysages sonores complètement différents, parce qu'on bosse chacun avec des gens très différents, qui viennent d'univers musicaux, mais qui ont rien à voir. Et donc ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que quand on se retrouve plus tard, 6 ans plus tard, on est nourri de ça, et on a envie de montrer à son pote, voilà ce que je ramène. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis fasciné par la musique, certaines guitares africaines, Djelimadi Tunkara, un guitariste fantastique qui a été une grosse influence pour moi ces dernières années, par exemple, et qui était guitariste du Super High Band de Bamako. Et ces guitares qui viennent, ils auraient pu être des joueurs de kora de façon classique, mais c'est des gens qui ont pris la guitare électrique à pleine main et qui en ont fait à travers la kora, enfin ou le ngoni, qui en ont fait autre chose en fait, et qui ont proposé des jeux, des sonorités vraiment particulières qui m'habite depuis longtemps et que j'ai pu un peu approfondir en fait. Non pas que j'ai travaillé avec des musiciens comme Djelimadi Tunkara, mais parce que j'écoute leur musique et c'est une musique qui me nourrit, qui m'influence, et quelque part elle ressurgit dans la mienne. Donc je ne copie pas parce que je ne sais pas faire, et surtout ça m'intéresse pas. Je ne lis pas la musique, donc je ne fonctionne que comme une éponge. Mais il y a un moment, ça ressort.
Hala hala hayya natwi al-fala tayya وقرب الحي للنازح الصبي هلا هلا وقرب الحي للنازح الصبي جلاجل في البيت شجي كرنة الغير في الفنن المرحبي كرنة الغير في الفنن المرحبي thank you.
démonstration en temps réel de la palette des tessitures et des textures qu'offre ce disque-là, Serge Tessoguet. Mmh. On écoute un extrait de ce disque fait avec Khaled Al-Jaramani, donc Interzone, et c'est le chant des caravaniers. Alors il y a ce chant qu'on a entendu tout à l'heure par Khaled Al-Jaramani, et puis il y a tout ce paysage sonore où on entend vos deux instruments passer de sonorité à une autre, comme si vous en aviez 15 en fait, des instruments différents. Comment est-ce que vous décririez ça? Que c'est juste ça vient sous les doigts, ça vient dans le réglage que vous faites de l'ampli, c'est un choix comme qui mettrait du safran, du sel, du poivre?
Simplement, déjà, quand je travaille avec un musicien, je change mon son s'il y a besoin. C'est-à-dire, si je travaille avec que la batterie de Cyril Bilbao, je vais jouer avec un son un peu plus saturé, je peux le faire. J'aime bien. Bon, ça c'est des goûts, hein, c'est une histoire de goût. Après, si je joue avec Khaled Al-Jaramani ou Joël Léandre à la contrebasse, vraiment acoustique, ou d'autres, ça dépend, en fait, les instruments avec qui je suis et les interprètes. Parce que les sons doivent se mélanger. C'est vraiment une histoire de cuisine. Si j'ai trop de saturation, je vais pas mettre en valeur le son du oud et ça marchera pas dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que son va disparaître et le mien va disparaître. On sait pas. Ça devient brumeux et on perd le sens de l'idée. Et ça, je pense que c'est vraiment dû au fait du choix des timbres, des sonorités de chaque instrument, qui fait que ça marche ou pas. Et après, j'adore profondément, j'ai toujours fait ça, faire un écrin pour les voix, pour une musique, pour la musique de quelqu'un d'autre, l'instrument, la voix de quelqu'un d'autre, que ce soit une voix, je veux dire un instrument, pas forcément une voix chantée, mais c'est quelque chose que j'affectionne. J'adore faire ça.
Mais aussi sur le terrain des voix humaines, vous le disiez tout à l'heure, ça vous arrive de travailler avec des interprètes de musique classique, de d'opéra, jusqu'à Cazet ou Maeklat, qui vont être davantage du côté du hip-hop et de la voix proférée et de la voix parlée. Tout vous intéresse? Ou ça veut dire que tout dépend de l'interprète, en fait? Tout dépend de la personne qui est à côté?
C'est les personnes qui m'intéressent. En ce moment, par exemple, je travaille avec Eric Harlix, qui est un auteur dont j'adore les textes et qui crée des sortes de tableaux de société, de peintures de société à travers des histoires. Donc c'est plutôt sur le mode, c'est un auteur, donc lui il dit ses textes. Donc c'est une façon d'habiter la musique qui est très différente de celle avec Khaled.
Et aussi sont des textes, par exemple, dans ces cas-là, dans le cas de Cazet ou Maeklat, ouais, en anglais et en français, mais c'est des textes que vous comprenez. Alors j'imagine, oui, que puisque vous parliez de sens tout à l'heure, Serge Tessoguet, votre musique, elle est pas complètement imperméable à la question des mots, qui sont des mots de votre langue maternelle. Alors que là, quand par exemple Khaled Al-Jaramani commence à chanter ce chant des caravaniers, vous recevez quelque chose qui passe pas par un déchiffrement des mots et du sens.
Non, on n'est pas que là-dedans, effectivement, une sorte de choix politique très affirmé de porter une musique contre les normes. C'est clairement ça. Et je fais plein de projets qui étaient vraiment clairement dans cette direction. Au moins tenter de proposer quelque chose de différent musicalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer quelque chose qui soit très divers, qui soit... On invente quelque chose, on ne sait pas ce que ça va être.
À l'intérieur même des projets.
À l'intérieur même des projets, c'est penser avant de monter le projet. Je les pense comme ça, je réfléchis avant de monter un projet sur qu'est-ce que je veux faire, avec qui je veux travailler et où est-ce que ça doit aller. Après, la musique vient, etc. Mais au départ, c'est très structuré, en fait, mentalement. Et jusqu'au point où, quand la musique arrive, tout d'un coup, tout ça doit paraître comme si c'était pas du tout structuré et ça doit être justement pas être structuré de façon normée. Donc ça doit être sale quelque part. Enfin, sale dans le sens où ça doit déborder la vie. Et de toute manière, il y a un truc qui me rend dingue depuis longtemps. C'est, par exemple, voilà ce que nous renvoie tout le temps l'industrie ou notre société. C'est-à-dire qu'il faut être tout le temps au top. Il faut tout le temps être le meilleur et faut proposer des choses qui soient compréhensibles par tout le monde. Et c'est n'importe quoi. C'est faux. parce que n'importe qui se lève le matin ne sait pas exactement comment sa journée va se dérouler. On n'est pas dans des journées parfaites. Personne, ça n'existe pas. Donc le monde marchand nous renvoie tout le temps cette image comme quoi on devrait être des personnages tout lisses, tout doux, tout je ne sais quoi, tout bien, parfait, très
lisible,
très avec une morale très très forte. Non, c'est insupportable en fait. C'est insupportable parce que c'est aller contre le sens de la vie qui est créative. Et pour trouver des nouvelles idées, il faut créer avec d'autres personnes qui sont différentes de nous pour pouvoir générer des idées dont on n'avait pas idée. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc aller me confronter avec Mike Ladd ou Kazé ou pour des gens qui viennent du texte ou Lily Salver ou Eric Harlix ou Khaled, c'est encore très très différent parce que lui sur la poésie, sur des poésies qui ont souvent des centaines voire des milliers d'années, des textes qui sont très très anciens. Et comme c'est la musique qui nous guide, Khaled se met à chanter. Et après je lui dis c'est quoi en fait, tu chantes quoi? C'est cool que je sache, par exemple. Et je suis toujours émerveillé parce qu'il choisit des textes toujours vraiment magnifiques. Il y a un texte de l'album d'avant, donc qui parlait de l'importance de la rosée dans le désert, qui permet aux plantes, aux animaux et aux humains de pouvoir survivre. C'est vraiment magnifique. Là, le chant des caravaniers, c'est vraiment un chant c'est un homme qui parle à son chameau et qui lui dit, s'il te plaît, replie la terre.
Incroyable, pour que la maison se rapproche.
Ouais. C'est super beau. C'est très court. Et c'est une sorte d'haïku comme ça, magnifique.
Replie la terre, rapproche la maison, l'exilé brûle d'arriver au loin dans le désert, les caravanes teintent doucement, mélancoliques. Merci beaucoup Serge Tessoguet. On laissera à chacun le soin de découvrir la version que vous faites tous les deux de la Gnossienne de Satie. Petit clin d'œil là aussi, où tout est un peu plus compliqué que ce qu'on croit, et tout aussi beau. Les concerts, on l'a dit tout à l'heure, il y en a beaucoup jusqu'au mois de juin, mais on peut dire que vous serez à Strasbourg le 31 janvier prochain, le 1er février à Rieux-le-Pape, à Bruxelles le 7 février, le 2 février à Pont-du-Château, le 8 février à Mordel, et puis on mettra le reste en lien vers votre site internet. Merci.
Merci.
Et c'est avec un dernier extrait de ce disque, Kanyamakan, sorti sur le label Intervalle Triton, que nous clôturons l'émission. Au son ce soir, c'était Valérie Lavalard à la réalisation Charlotte Roux. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr ou en vous abonnant au podcast et ou de par les temps qui courent. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et Lou Quevauvillier qui m'aident à penser et préparer cette émission. Dans un instant, vous retrouvez le journal. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur France Culture. Thank you.